France Inter, le 18-20.
Normalement, après cette émission, on devrait tous mourir. Mais c'est ça qui est formidable avec Toutankhamon, si je puis dire. Son masque mortuaire en or, c'est l'image que nous avons tous spontanément de l'Égypte. Et cette fascination s'accompagne d'une légende urbaine autour d'une malédiction formidablement alimentée par Conan Doyle. Tout en Égypte ancienne nous semble à l'image de ce fameux masque fastueux, luxueux, grandiose, mystérieux et de profil. Qu'importe si on mélange un peu tout finalement entre Cléopâtre, Clair du Commandement, Astérix, Tintin, Blake et Mortimer. L'Égypte, on adore. La même exposition Toutankhamon, ou presque, que celle qui vient à la Villette à partir de samedi en 1967, elle a rassemblé 1,2 million de personnes. Cette année, l'expo n'est pas encore ouverte et 130 000 billets, peut-être plus, même au moment où on se parle, sont déjà réservés. Et pourtant, après tout, qu'est-ce qu'il a de plus, Toutankhamon? Bah rien, il est mort à 18 ans, on peut pas dire qu'il ait laissé une trace indélébile, ce fils d'Akhenaton et de Néfertiti. Ou pas d'ailleurs, vous allez nous le dire, qui avait, paraît-il, un pied beau. Mais ce qu'il nous a laissé, est-ce qu'on a retrouvé, ça c'est formidable, ces 5000 objets. En France, vous ne les verrez pas tous et vous ne les verrez plus, surtout après cette exposition qui s'installe à Paris. On verra d'ailleurs s'il était aussi insignifiant qu'il en a l'air, ce fameux Toutankhamon. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur lui, sans oser le demander, ben c'est maintenant ou jamais. Allez, bienvenue.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Mireille, c'est vous la première. Soyez la bienvenue au téléphone sonne. Mireille, bonsoir.
Bonjour Fabienne, mais bonjour pour tous les auditeurs. Alors j'ai fait une petite réflexion en entendant le lancement de l'émission tout à l'heure. Vous avez dit que la momie faisait escale à Paris dans sa tournée mondiale, si j'ai bien compris. Mais la momie, elle est restée à elle est restée dans la vallée des rois.
J'ai dit que c'était le retour de la momie pour faire un jeu de mots et pour faire plaisir à notre ami stagiaire Pierre.
Voilà.
Mais effectivement, la momie est
plusieurs programmes récents à la télévision. Effectivement, même quand on va filmer sur place aujourd'hui, la momie est toujours en place. Alors j'espère que à Paris, il y aura les sarcophages, le trône et le masque. Et il paraît qu'il y a 150 objets de très grande valeur, mais la momie, non. Voilà.
Mais la momie, non. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Merci beaucoup pour cette question, Mireille, pour ce démarrage d'émission, pour vous répondre et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Florence Quentin est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes égyptologue. Vous avez écrit Dans l'intimité, Toutankhamon, c'est publié chez First. Et puis, bonsoir, Vincent Rondeau.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département des antiquités égyptiennes au Louvre. Florence Quentin, est-ce qu'on peut effectivement répondre en bien Mireille? D'abord, elle a raison. On voit pas la momie. Pourquoi? Est-ce que c'est indéplaçable, intégralement non déplaçable? Est-ce qu'on l'a déjà vu ailleurs, d'ailleurs, en soi, la momie, si je puis dire?
Elle est indéplaçable parce que d'abord, elle est très fragile.
Alors, on imagine, oui, qu'elle est assez fragile.
Elle a été très mal momifiée, on le sait. Enfin, il y a eu beaucoup d'onguents qui l'ont carbonisée. Et puis, elle est très fragile. Et elle est dans sa demeure d'éternité, de la vallée des rois. Elle demeure. C'est la seule momie qui n'a pas été transférée dans un musée. Elle est vraiment in situ. Donc, je pense qu'on ne la verra plus. Et elle a été transportée pour des analyses, pour être radiographiée ou pour être scanné, mais on ne la verra pas exposée, bien sûr.
Vincent Rondeau, en quoi, parce qu'on va revenir sur cette fascination que provoquent ces objets-là, en quoi ces 150-là sont formidables, extraordinaires et même quasiment uniques, puisqu'on le disait tout à l'heure, on les voit une fois, mais on ne les reverra pas deux, en tout cas pas en France?
Ils sont extraordinaires parce qu'ils appartiennent au trésor, tout simplement. C'est le trésor qui est extraordinaire. Et 150 objets parmi les plus beaux du trésor, ça suffit à qualifier l'exposition d'extraordinaire.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y en a un, par exemple? Est-ce qu'il y a une chose où vous dites, vous vous planteriez devant volontiers, vous y resteriez une heure et demie sans bouger en le regardant?
Mais je l'ai déjà fait, oui. La contemplation de ces objets est un plaisir que beaucoup d'entre nous avons connu, hein, au musée du Caire. Là, on a la possibilité de les voir à Paris, ce qui est quand même un anniversaire en plus, puisque vous l'avez rappelé, ils étaient déjà venus en 1967. Et du coup, c'est pas tant une découverte, mais un rendez-vous qu'on a avec ce trésor. Mais tout ça fait que les objets sont vraiment à contempler.
Pourquoi on les reverra plus d'ailleurs? Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'ils vont être effectivement installés différemment en Égypte désormais, mais pourquoi on sait que ça ne sortira plus d'Égypte? On sait ça, Florence Quentin, ou pas?
Oui, parce que de toute façon, ils vont constituer la première partie de l'exposition de ce grand musée égyptien de près de des pyramides, et ils vont constituer la voilà, ça va être la star de ce musée qui va ouvrir peut-être en 2020-2021, et la première grande salle qui va être ouverte sera ouverte à l'intégralité de la collection du trésor, donc ils ne ressortiront plus d'Égypte.
Tiens, alors puisque vous parlez de l'exposition de 67, Isabelle a eu la chance de la voir. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, merci. Ben oui, moi j'étais petite, hein, je suis née en 60, et donc ma maman m'a emmenée voir cette exposition, et je dois dire que j'ai attrapé le virus hein, de l'égyptomania. Alors je me souviens pas en détail certainement de ce que j'ai vu, parce que ça se confond après avec ce que j'ai vu au Caire, avec ce que j'ai lu. Mais j'ai les deux médailles commémoratives d'ailleurs en or de l'exposition, que j'ai précieusement gardé. Et puis j'ai eu la chance d'amener ma fille pour mes 40 ans. On est partis là-bas toutes les deux. Et alors nous, on est restés des heures au musée du Caire. On était complètement fascinés par ce trésor. C'est extrêmement beau. C'est un raffinement, je crois, qui est inégalé. Et puis voilà, quoi, moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, d'emmener mon fils cette fois, qui lui n'est pas venu au Caire. Et puis de retourner en Égypte. Voilà, j'invite tout le monde à aller en Égypte aussi.
Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, effectivement, d'y retourner. C'est vrai que c'est un voyage formidable. D'où, à votre avis, Vincent Rondeau, d'où ça vient cette... On a tous la même fascination que ce que raconte Isabelle, en fait. Moi, je me souviens, je suis allée en Égypte, j'ai eu cette sens-là, je mettais mes doigts dans les hiéroglyphes et je me faisais engueuler. Je me disais, mais non, mets pas tes doigts là-dedans. C'est quand même formidable de voir des choses pareilles. D'où ça vient cette incroyable fascination? Le cinéma s'en est emparé, la fiction s'en est emparée, la BD... Tout le monde, à un moment, a touché à ça, jusqu'à Agatha Christie. Ça vient d'où, en fait, à votre avis? C'est le mystère, peut-être?
La civilisation égyptienne, elle n'est comparable à aucune autre, pour des raisons qui certaines sont faciles à décrire, mais d'autres nous échappent. En tout cas, notre fascination à l'égard de la civilisation égyptienne n'est comparable à aucune autre. Il n'y a pas d'autre passion pour une autre civilisation ancienne qui soit aussi aigu, aussi partagé, aussi renouvelé constamment. Et ça, c'est vrai que ça pose question en soi. Moi, je me demande dans quelle mesure on pourrait pas expliquer le phénomène au fait que l'Égypte fascine depuis l'Antiquité. Elle a fasciné d'abord les Grecs, elle a fasciné ensuite les Romains, et on s'est transmis cette fascination en héritage depuis l'Antiquité. Et du coup, et je crois que Madame vient de le rappeler, j'étais petite, mais j'y étais emmené, on transmet génération après génération cette fascination en emmenant ses enfants, etc. C'est un héritage qui passe de génération en génération. Mais c'est comme ça que j'ai envie de l'expliquer, peut-être.
Florence Quentin, revenons à notre ami Toutankhamon, quand même. Est-ce que on lui rend pas hommage quand on dit que finalement il n'était pas très intéressant, Toutankhamon, si ce n'est que comme on l'a tout trouvé autour de lui dans ce tombeau formidable, alors effectivement, on en fait toute une histoire, mais qu'au fond, il n'était pas si intéressant que ça. Vous en avez écrit tout un livre. Il avait quand même des choses à nous laisser, ce Toutankhamon, ou pas?
Oui, on a une vision qui est un peu différente aujourd'hui. On se rend compte qu'il a régné 10 ans, mais ce n'est pas rien, 10 ans.
Alors, de 7 à 10, de 8 à 18 ans,
voilà,
je dis.
De 7 à 17 ans, les chronologies varient. Et en réalité, il a eu la très lourde tâche, surtout en tant que fils d'Akhenaton, qui était jugé hérétique, qui avait imposé ce culte du dieu unique, du disque solaire Aton. Il a eu la lourde tâche de rétablir les cultes polythéistes. Et ce n'était pas rien de rétablir, de rouvrir ces temples, de les restaurer. Il a aussi fait des statues, des monuments, mais effectivement, c'est passé dans l'oubli parce qu'il a été victime d'une damnation mémorielle et on a effacé son nom de l'histoire royale.
Qui l'a effacé? Qui efface la mémoire de Toutankhamon? C'est juste après lui ou c'est un peu après?
C'est un peu après, c'est le général Horemheb qui a succédé à Haï, c'est-à-dire celui qui a succédé à Toutankhamon, et le général Horemheb, qui avait aussi servi sous Akhenaton, a voulu effacer toutes les traces de ce qu'il a jugé être une hérésie, ce qui a été peut-être un traumatisme pour l'Égypte. Et il a effacé des listes royales, Akhenaton, Méritaton, qui a sans doute été une reine pharaon, et Toutankhamon, et Haï. Voilà, ils ont été effacés, éradiqués des listes royales.
À quoi ça ressemble l'Égypte de Toutankhamon, en fait? C'est quoi à ce moment-là, lui, le jeune Toutankhamon qui a 7 ans, 8 ans, c'est quoi la vie de ce pharaon?
Alors, c'est le pharaon, il faut bien comprendre que il est considéré comme un dieu sur terre, hein. Enfin, un demi-dieu sur terre.
C'est un grand privilégié, on est d'accord.
Oui, et il est assez isolé. Il ne vit qu'avec des gens de son rang, entouré de jeunes nobles. Il est très isolé, finalement, du peuple. Il est complètement coupé du peuple. Et surtout, c'est un cas quand même très particulier, puisqu'il arrive sur le trône, il est très petit. Et surtout, il doit renier ses parents. Enfin, en tout cas, son père. Et il est entouré de courtisans, de ministres, etc., qui sans doute le manipulent un peu. La situation est extrêmement compliquée pour lui quand il arrive au pouvoir.
C'est-à-dire, donc on le manipule, on essaye de lui faire quoi, en fait, à ce pauvre gamin qui a 7 ans, 8 ans à ce moment-là?
Mais déjà, on le pousse à restaurer donc ses temples, ses cultes polythéistes avec des intérêts énormes, les intérêts des grands temples, notamment le grand temple d'Amon.
Vincent Rondeau, quand on regarde les images de ce roi, et je lis ça d'ailleurs aussi dans votre livre, il est très souvent assis. Il y a même un moment où il est assis en train de tirer une flèche. Donc il y a cette histoire de son pied beau, ou l'histoire que peut-être même il ne marchait pas. Quel crédit il faut accorder à ce genre de... Est-ce que ce sont des théories ou est-ce que ça se vérifie désormais qu'il était peut-être concrètement handicapé dans un fauteuil tout en camon? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Moi, je pense que vous en saurez sans doute plus que moi, madame, sur ce point. En tout cas, les questions qu'on peut étudier, puisqu'on dispose des momies. Alors, dans le cas de Toutankhamon, je crois savoir que toute la partie centrale de la momie est dans un état très précaire, et du coup, on a peu de son corps qui soit vraiment conservé pour des études. Mais on a pu faire l'hypothèse, en effet, je l'ai lu, on a pu faire cette hypothèse et puis expliquer aussi le nombre considérable de cannes
qui aussi,
est enterré
avec
lui dans le trésor. C'est peut-être une explication, en tout cas une hypothèse de travail qui mérite d'être étudiée, à laquelle on aura le fin mot un jour.
Et Florence Quentin, avec quoi on peut comparer, en fait? Parce qu'un trésor aussi complet, on n'en a pas trouvé d'autres, ou je me trompe, en
fait? Non, c'est le seul.
Alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment comparer? Est-ce qu'on est sûr qu'effectivement le nombre de cannes, moi aussi j'ai lu ça, correspond peut-être au fait qu'il avait besoin de ça pour se déplacer? Est-ce qu'on a des éléments de comparaison de toute façon quand on connaît désormais la vie de Toutankhamon par rapport aux autres?
Alors on sait que les cannes, c'est aussi un instrument de pouvoir, c'est aussi un élément qui permet de combattre les forces négatives dans l'au-delà, dans le voyage du pharaon dans l'inframonde, mais on n'a pas évidemment de moyen de comparer le nombre considérable de cannes, plus de 100 cannes. Alors est-ce qu'il avait vraiment besoin d'un appui à la marche? Parce que, comme le disait Vincent, effectivement la momie a été mal manipulée par Carter, parce qu'il a dû la désincarcérer, si je puis dire. Elle était collée au fond du sarcophage, il fallait qu'il extrait donc tous les bijoux sur la momie, et il a un peu mal manipulé. Et on pense peut-être même que le pied qu'on dit beau,
il aurait été... En fait, c'est la manipulation.
Il est possible qu'il ait été tordu.
Il paraît qu'on a vu une fracture aussi, je ne sais plus si c'est au tibia ou au genou.
Au fémur,
bon, ok. Il paraît qu'il y a une fracture donc aussi qui est une... Ça veut dire qu'il y a une mort accidentelle, c'est ça l'hypothèse? C'est quoi en fait? Il est mort comment? À 18 ans? Est-ce que c'est très jeune d'ailleurs, 18 ans, cette époque-là ou pas?
C'est assez jeune, mais enfin l'espérance de vie était assez courte en Égypte ancienne. On n'est pas Ramsès II qui est mort fort tard.
Absolument.
Mais cette fracture, effectivement, on a vu des traces donc d'onguents, enfin, qui avaient coulé à l'intérieur de la fracture, donc on est sûr qu'elle a eu lieu donc à la fin de sa vie, une fracture ouverte au fémur, alors une chute, on ne sait pas exactement. Et est-ce qu'il est mort de cette fracture? Certainement des conséquences de la fracture. Il avait certainement, encore une fois, c'est difficile de faire parler un corps si longtemps après, mais il avait sans doute une constitution fragile et surtout une septicémie dans un pays chaud, c'était très vite arrivé.
Bonsoir François.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu François, on vous écoute.
Je vous remercie. Alors écoutez, d'abord je vous remercie pour vos émissions. Je les écoute souvent et aujourd'hui je suis un peu ému. J'avais 12 ans lorsque l'exposition au Grand Palais de 67 a eu lieu à Paris et mon grand-père m'a emmené là. Et tout s'est mélangé dans mon esprit d'enfant. J'abordais la sixième, donc on étudiait l'Égypte ancienne brièvement. Et à présent j'ai 62 ans et je me rends compte que ce lointain souvenir m'éloigne aussi de la lumière de Toutankhamon, qui ne reste plus le point d'horizon de tous ces grands pharaons de l'Égypte ancienne, et que malgré les très grandes découvertes matérielles et aussi de l'histoire du pharaon dont on parle, Toutankhamon, d'autres sont apparus à la lumière. Et ni l'un ni l'autre ne font de l'ombre aux uns et aux autres. Et j'en garde aujourd'hui une grande magie. Voilà, c'est un peu magique quand on parle de Toutankhamon.
Est-ce que vous y retournerez du coup, François, à l'exposition fois-ci ou pas ?
Alors j'aimerais beaucoup, mais j'habite Toulouse et il sera improbable pour moi d'y aller. En tout cas, j'ai des parents là-haut, des petits-neveux, à qui je vais tout à fait initier l'idée d'aller visiter l'expo parisienne. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup pour votre témoignage, François. Vincent Rondeau, ça rejoint la question de Marie, qui est à Villeneuve-d'Ascq et qui nous l'envoie par mail sur franceinter.fr. Est-ce que toutes les tombes des grands pharaons ont été trouvées? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer un jour une découverte du même type que l'incroyable trésor de Toutankhamon?
Les probabilités sont de plus en plus rares. Il faut être... raisonnable d'une certaine façon, mais il y a des enquêtes qui sont faites actuellement dans la vallée des rois par les archéologues égyptiens pour faire le point sur cette question, hein. Je crois que y a un programme systématique de fouilles dans la vallée des rois qui a été engagé pour répondre à cette question. Mais c'est l'occasion, moi j'aimerais parler des tombes royales qui ont été trouvées à Tanis dans le delta. Alors, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles ont été trouvées elles aussi intactes, ouais. non pillées. Et du coup, elles sont tellement différentes, en bien qu'elles conservent des sarcophages en argent, des sarcophages et des masques en or, etc. C'est le contenu de ces tombes royales de la 21e et 22e dynastie qui vont remplacer le trésor de Toutankhamon au vieux musée égyptien du Caire. Elles permettent des comparaisons quand même et de se rendre compte que l'incroyable richesse du trésor de Toutankhamon, ben, on ne la retrouve pas forcément quelques décennies plus tard, quelques siècles plus tard.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pharaons se sont appauvris? Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que les fastes, qu'il y a moins de fastes, en fait, tout simplement, au moment de leur sépulture?
Il faut tenir compte de tous ces paramètres. Mmh. Les pharaons se sont appauvris ou alors la mode a changé? L'esprit des plus exactement là où les conditions économiques n'exigent plus autant d'or qu'on exploitait à l'époque et au Nouvel Empire de façon vraiment ça a été un des climax même si on a eu d'autres après. Tout ça doit être pris en compte, en effet. Et les questions de mode peuvent jouer, oui.
Florence Quentin, la cavité récemment découverte dans la pyramide de Khéops peut-elle avoir autant d'importance que Toutankhamon? C'est ce que nous dit Fabien, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Ça rejoint la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que la réputation de Toutankhamon est surfaite simplement parce qu'on a tout trouvé? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, au fond, bien plus importantes?
Alors cette cavité, c'est une cavité qui est identifiée comme une cavité. On ne sait pas du tout ce qu'elle contient. Est-ce que c'est un vide de décharge? Est-ce que c'est un... On ne sait pas du tout. Donc je pense que je suis un peu d'accord avec vous. Mmh. Je ne sais pas si c'est indépassable, mais ça sera difficile de trouver quelque chose d'aussi
c'est
important.
C'est fini le temps des très grandes découvertes, le temps des hasards même. Est-ce que le temps des hasards, parce que c'est ça qui est formidable aussi dans l'histoire de la découverte en 1922, c'est qu'on a l'impression de tomber dessus quasiment par hasard, une histoire comme dans les livres. Hein, où il y a un berger qui trouve une pierre plate et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on se retrouve dans le tombe dans le tombeau de Toutankhamon. Est-ce qu'un hasard comme ça existe encore, Vincent Rondeau? Ou est-ce que c'est bon, on a les moyens, on a sondé tout ce qu'il fallait sonder?
Je ne sais pas si c'est le mot hasard qu'il faut retenir. Je pense qu'il s'agit, dans le cas de la tombe de Toutankhamon, et c'est ça qui est fascinant, il faut bien le dire, il s'agit d'une recherche, c'est-à-dire que Carter, financé par Carnarvon, la découvre après des moments d'abandon, enfin de difficultés, de découragement, et c'est sa persévérance et les hypothèses qu'il affine de plus en plus qui lui permettent de la trouver, et ça c'est... en soi remarquable. Et c'est ce qui fait penser que les fouilles que nous menons aujourd'hui, bon, des hasards, il pourrait y en avoir, bien sûr, à l'occasion de chantiers, de construction, etc., bien sûr, mais à travers les fouilles, on peut toujours penser et avoir l'espoir, bien évidemment, de faire des découvertes extraordinaires. Et je voudrais rappeler à cette occasion qu'il n'y a pas que les trésors à être extraordinaires. Ou alors, d'autres découvertes peuvent être aussi des trésors. J'imagine découvrir un lot de papyrus avec des textes littéraires de l'Égypte ancienne pourrait être un trésor inestimable.
Il y a une question dans ce sens, on va y venir dans un instant. La question avant de Camille qui est à Lourdes sur l'appli France Inter. Est-ce qu'on a découvert justement tous les secrets, par exemple, de la conservation des momies, Florence Quentin? Est-ce qu'on serait capable de reproduire les mêmes techniques si on voulait voir comment on faisait à l'époque? Est-ce qu'on sait faire ça?
Oui, là, je pense que pour la conservation des momies, on sait à peu près comment ça se passait, même on sait très bien comment on conservait les corps. Ça, c'est pas encore, c'est plus un secret. Et puis, des essais, enfin, des tentatives de momification, non pas d'un corps, mais humain, mais d'animaux ont été faites. Donc, ça, on sait. Et puis, le climat très sec de l'Égypte a contribué également à conserver ses corps. Et pour faire suite à ce que dit Vincent, je pense aussi que tous ces torts du roi, tous ces artefacts qui sont absolument splendides, occultent parfois effectivement l'idée, par exemple, qu'on n'a pas trouvé de texte. Carter avait l'espoir de retrouver des papyrus, des textes dans cette qui pourraient nous renseigner sur l'époque. Eh bien, il n'en a pas trouvé. Pour un égyptologue, un texte, l'épigraphie, c'est fondamental.
Et c'est ce que j'allais vous demander. En quoi cette découverte a permis de faire une avancée très importante sur l'histoire de la civilisation égyptienne, sur ce qui se passait vraiment à cette époque-là? Est-ce qu'on sait finalement des choses sur les sépultures, etc., beaucoup, mais qu'on manque encore d'informations parce qu'il manque les papyrus sur le mode de vie, sur la politique et je ne sais encore de cette civilisation, Vincent Rondeau?
Je me demande si la découverte de la tombe de Toutankhamon a permis de faire des progrès considérables sur l'histoire égyptienne. La découverte de cette tombe intacte, elle a permis de mettre en lumière, mais mettre dans une lumière aveuglante, un pharaon. Elle a permis aussi, et ça c'est un des paradoxes et qui certainement contribue à notre fascination aujourd'hui, à faire la démonstration que le pharaon couvert d'or, il existe bien. Et ça, je crois que ça n'est toujours pas remis. Je pense qu'on est dans cette fascination d'un animal pris dans la lumière des phares. C'est une démonstration absolument époustouflante. Mais d'un point de vue historique, on est bien obligé de rappeler que le trésor, enfin le matériel du tombeau de la tombe de Toutankhamon plutôt, n'apporte pas des informations considérables. Il en apporte beaucoup, bien évidemment.
Et du coup, qu'est-ce qu'on aimerait savoir qu'on ne sait pas, Florence Quentin, aujourd'hui sur cette civilisation, par exemple?
Dans le cas de Toutankhamon, on aurait souhaité, effectivement, comme je le disais, découvrir des textes qui nous renseignent un peu sur sa filiation, parce qu'évidemment il y a les analyses ADN, et puis sur ce qui s'est passé dans cette époque extrêmement troublée de transition. Mais ça, on n'a pas trouvé. On a effectivement des renseignements sur les objets qui l'accompagnaient dans la mort, et puis on a découvert des choses uniques, des objets uniques, mais ça aurait été vraiment très important pour nous renseigner sur l'histoire, sur certaines pratiques, et nous ne l'avons pas trouvé. Effectivement, je suis d'accord, on a tous ce rêve d'enfant, de chasseur de trésors, et cet or est un peu éblouissant.
Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Sarah, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je voulais savoir si dans les études, quand on fait des études d'archéologie ou d'égyptologie plus précisément, est-ce qu'à un moment donné on aborde la question morale du fait que pour accéder à ce savoir, on profane les tombes? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre du respect de ces civilisations, de ces cultures qui nous fascinent, mais pour satisfaire notre besoin de savoir, eh bien, on les détruit finalement, on ouvre. Il y a Laurent Godet qui en avait parlé dans un roman je me demandais si cette question était abordée.
Merci beaucoup Sarah. Question pour vous de Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes au Louvre. Est-ce qu'il y a un sentiment de gâcher, en fait, et de saccager, ou de, je me souviens plus du terme qui est employé, Sarah, profaner, pardon, excusez-moi Sarah. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là ou pas? Comment on règle ça?
On le règle, disons, il faut, la question posée est intéressante, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'archéologie, de toute façon, elle procède par une destruction, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il s'agit selon des protocoles qui sont de plus en plus précis, je change de sujet, je ne parle pas là des tombeaux des pharaons, mais d'un terrain pour sur une ville par exemple. Il s'agit progressivement et par strates de détruire un terrain pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir le disséquer littéralement. Et toute l'adresse et tout le métier de l'archéologue, c'est de documenter la destruction à laquelle il est en train de procéder. Ça, c'est une chose. S'agissant des tombes, je crois que on n'a pas idée aujourd'hui du traitement qui a été apporté aux momies tout au long de l'histoire. Parce que il faut bien se souvenir que les profanations, elles intervenaient peu de temps après les inhumations. Et c'est là encore, ça nous ramène à Toutankhamon, puisque lui, il a échappé à ça. Mais Ramsès II et les autres, ils ont vu leur tombe profanée, etc. Au point que, à l'époque, des prêtres de la 21e dynastie s'étaient émus de l'état de profanation dans lequel étaient les tombes des grands pharaons, et ont regroupé les corps de ces grands pharaons pour les cacher une nouvelle fois dans deux cachettes de la vallée, de la région de la vallée Thébaine, de la montagne Thébaine. Donc, sans parler ensuite, par exemple, de la Renaissance qui fait venir par bateau entier des momies pour fabriquer de la mumia. On appelait ça la mumia dans les grands pots en faïence des pharmacies anciennes. Il y a un pot, toujours un pot de mumia qui est de la poudre de momie qu'on utilisait pour se soigner, pour ses vertus aphrodisiaques, enfin, etc., etc. Donc, l'histoire
pourquoi
de la profanation...
Pourquoi comment, d'ailleurs, cette poudre? C'est quoi?
Je n'ai jamais essayé, mais l'histoire de cette profanation... Non, l'histoire de cette profanation, elle est très, très ancienne, et du coup, voilà, je renvoie un petit peu la question à cette auditrice.
Florence Quentin, même question au fond pour prolonger ce que disait Vincent Rondeau. Prenons un cas d'école. Imaginez qu'on retombe aujourd'hui sur un trésor, même s'il n'est pas similaire, approchant. Est-ce qu'on profane ou est-ce qu'on sauve au fond si on l'étudie, si on sort la momie et le reste et qu'on le met dans un musée? Vous le voyez comment?
Moi, je trouve assez éthique, si je puis dire, qu'on ait laissé, en tout cas, cette momie dans son tombeau. Ça a un petit peu changé, mais effectivement, comme vous le disiez, il fut un temps où on a considéré ces corps comme des objets de musée. On les a exposés. Alors maintenant, je pense que la démarche est beaucoup plus respectueuse et il me semble indispensable, effectivement, de sauver de l'oubli, et puis de si on trouvait une tombe similaire ou même moins imposante, en tout cas, de fouiller, de documenter, mais avec les moyens qui sont les nôtres. Carter a été un remarquable archéologue, je suis aussi d'accord. Il a fait avec les moyens qu'il avait dans les années 20. Ouais. Il a cherché des moyens toujours de conserver ses objets. Enfin, il a inventé à chaque minute de nouvelles choses pour conserver ses objets. Mais il a fait comme de l'archéologie comme on en faisait à l'époque. Donc, il a aussi désincarcéré cette momie. Il a un petit peu peut-être bouleversé ce corps. Mais aujourd'hui, je pense on aura des moyens aussi scientifiques qui permettraient de conserver beaucoup mieux.
Bonsoir Sylvie, votre question va dans le sens de ce que disait Vincent Rondeau tout à l'heure. On vous écoute, bonsoir.
Oui, bonsoir et merci. Mais effectivement, on a déjà plus ou moins répondu à ma question, mais qui était de la suivante, c'est toute cette richesse du trésor de Toutankhamon que nous admirons tous. Je pense que si on avait retrouvé les tombes de ces dix premiers, par exemple, je sais pas, Toutmosis, il y a toute une génération de pharaons qui étaient bien plus importants que Toutankhamon, qui ont dû avoir des tombes absolument merveilleuses, avec beaucoup plus de richesse encore que celle de Toutankhamon finalement. Et voilà, et puis malheureusement elles ont été pillées pour la plupart et il ne reste rien, c'est ça qui est très dommage. Et il va y avoir des richesses fabuleuses.
Merci beaucoup Sylvie, et ça rejoint la question d'Olivier qui dit pourquoi est-ce qu'on a retrouvé la tombe de Toutankhamon intacte alors que beaucoup d'autres donc ont été pillées? Est-ce qu'elle était réellement dans un endroit si particulier, Vincent Rondeau?
Elle s'est retrouvée, elle est assez au fond de la vallée des Rois, elle s'est retrouvée protégée notamment du fait que une tombe postérieure qui a été creusée au-dessus d'elle avec tous ces gravats enfouir complètement l'emplacement de la tombe de Toutankhamon, celle de Ramsès IV de mémoire. Et Faut bien imaginer que la vallée des rois, c'était les entrées des tombes étaient visibles. En fait, mm-hmm. c'était des porches mm-hmm. monumentaux qui étaient fermés, bien évidemment, fermés par un mur peint avec les noms du roi, etc. Il y avait, autant qu'on sache, rien de caché. La tombe de Toutankhamon s'est trouvée cachée par le hasard des chantiers des tombes ultérieures dans la vallée des rois. Donc ça, c'est un phénomène étonnant, oui.
Bernard nous demande sur franceinter.fr, pouvez-vous nous dire quel est l'impact du tourisme en termes de nuisances sur les sites égyptiens et comment d'ailleurs les autorités égyptiennes réagissent-elles ?
Ben, c'est un souci, une préoccupation constante des autorités égyptiennes. Ils ont, en effet, alors les tombes, ça se voit d'autant plus dans les tombes que c'est des lieux relativement étroits, mm-hmm. mais il y a des efforts considérables qui sont faits pour aménager les sols, parce que un des très grands problèmes, c'est la poussière. Mm-hmm. Et puis un des autres problèmes, c'est la respiration des touristes eux-mêmes. Les pyramides, ceux qui sont entrés, par exemple, la pyramide de Khéops l'ont éprouvé. Mais mm-hmm. dans les grandes tombes royales de la Vallée des Rois également, bien sûr.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il y a des choses que moi j'ai pu voir il y a 15 ans ou 20 ans, par exemple, qu'on ne voit plus ou qu'on ne verra plus à terme parce qu'on ne rentre plus à cause de la respiration, ça enlève les couleurs, etc.
Alors, ce que fait beaucoup le ministère des Antiquités égyptiennes, c'est de fermer temporairement une tombe par roulement. Mm-hmm. Donc, on arrive dans la Vallée des Rois, on découvre qu'on ne peut pas visiter telle tombe qu'on venait voir. Ça, on peut le. C'est un peu, mais c'est une méthode, une très bonne méthode, je pense. Il y en a d'autres, hein, des systèmes de climatisation, etc.
Question pour tous les deux de Benoît sur l'appli de France Inter. Est-ce qu'on connaît la langue de l'Égypte ancienne? Est-ce qu'on sait comment elle se prononçait? Est-ce qu'on sait imaginer le son, en fait, ou pas?
C'est une bonne question. Non, c'est pas l'imaginer ou pas très bien. La question, en fait, ce qui est posé comme question, c'est celle de la vocalisation de l'Égyptien ancien. Et comme c'est une langue, pour une très grande partie sémitique dans son organisation, dans son fonctionnement, elle ne note que les consonnes. D'accord. Plus quelques consonnes faibles, le Ayn, le Yod, etc., le Waw. Et de ce fait, on a le squelette consonantique des mots.
Mais du coup, ça ressemblerait à quelle langue? Est-ce qu'on peut donner une comparaison qui n'en est pas une, mais comme ça
C'est difficile à dire. Ça pourrait avoir des sonorités qui ressemblent à l'arabe pour mm-hmm. certains, par certains aspects, parce que par le fait que c'est deux langues sémitiques de la même façon, mais on a la même difficulté avec les autres langues antiques, c'est qu'on a la même difficulté pour leur prononciation à la connaître. Mais il y a des études qui sont faites là-dessus pour autant.
Bonsoir Antoine.
Oui, bonjour madame.
Bienvenue Antoine.
Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible de faire une comparaison entre les travaux de Carter, donc qui a découvert Toutankhamon, et les découvertes faites par d'autres égyptologues, tels que Pierre Montet, qui était là, je vous appelle, de Strasbourg, qui a commencé sa carrière à l'université de Strasbourg, avant d'accéder par la suite au Collège de France.
Merci Antoine. Antoine, Florence Quentin voudrait savoir qu'est-ce qu'on pense de son régional à lui, à Strasbourg.
À son régional à lui, mais oui. Je passe la parole à Vincent qui connaît bien.
Merci de me la donner. Ben oui, monsieur, j'ai parlé des tombes de Tanis, c'est Pierre Montet qui les a trouvées.
Oui.
C'est Pierre Montet qui a trouvé les tombes intactes des royales à Tanis. Et il l'a fait en 1939, donc au moment où toute l'Europe entrait en guerre. Et du coup, sa découverte fabuleuse, elle aussi, est passée relativement, enfin inaperçue, ce serait exagéré, mais relativement inaperçue. En tout cas, le monde n'a pas pu du tout s'y intéresser. Mais Pierre Montet est un Strasbourgeois célèbre, incontestablement. Et il y a une grande tradition d'égyptologie à Strasbourg, et toujours en France, une des cinq universités où l'égyptologie est enseignée est à Strasbourg.
Et curiosité de Gaston de Montigny, le Bretonneux, je suis sûr que tout le monde a cette curiosité. Pourquoi les dessins de l'Égypte antique sont-ils tous de profil? Est-ce que ça veut dire qu'on ne savait pas dessiner autrement, Florence Quentin?
Non, c'est une convention stylistique. Également aussi, il y a une intention magique dans beaucoup de choses dans l'Égypte ancienne. Voilà pourquoi on représentait les personnages sous cette forme.
Allez, c'est ça l'explication. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Pardon Antoine, non, je vous ai déjà entendu, pardon, c'est Françoise que je voulais appeler. Bonsoir Françoise, excusez-moi.
Oui,
on vous embrasse Antoine quand même. Allez-y Françoise.
Oui, bonsoir, je vous entends bien, merci. Non, c'était juste pour apporter une petite note, optimiste, mais pour dire que la relève était assurée. Je suis enseignante en maternelle et ma collègue et moi-même avons décidé d'emmener voir les enfants qui ont donc entre 4 et 6 ans, voir l'exposition des Bœufs et Avril. Voilà, il y a un engouement dans la classe, déjà depuis l'année dernière, pour cette période, cette époque. Et
mais du coup, pardon, qu'est-ce que vous leur apprenez, Françoise, du coup, le jeune Toutankhamon, ce qu'il faisait de ses journées, comment, pour des enfants qui ont entre 4 et 6 ans, qu'est-ce que vous leur dites?
Alors, bon, déjà, on aborde plutôt la civilisation en général, hein, c'est sûr qu'on rentre pas dans les détails de la momification. Bon, on essaie de, bon, en tout cas, des choses qui sont audibles pour des jeunes enfants. Mais c'est vrai que aussi on peut parler de la vie parce qu'on essaie de trouver, dans des livres documentaires que les enfants apportent, que nous empruntons, et on essaie d'apprendre un petit peu le quotidien. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien manger, enfin, ça reste quand même. On aborde cette période de manière, on va dire, très humblement.
Merci. Je ne suis pas historienne. Chacun à son niveau pour des enfants de 4 à 6 ans, bien sûr. Merci beaucoup, Françoise. Est-ce que vous avez la réponse à la question de Françoise, l'un ou l'autre? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on mangeait?
Je voulais d'abord dire, madame, que vous prenez le risque de fabriquer des égyptologues en faisant ça. Et ça,
c'est. J'ai pensé exactement la même chose.
Voilà, on ne peut que vous y encourager, vous en féliciter. Qu'est-ce qu'on mangeait?
Qu'est-ce qu'il mangeait, le jeune Toutankhamon?
Alors, le jeune Toutankhamon, il mangeait beaucoup de choses. Des légumes, des oignons. La base de la nourriture égyptienne dans l'Antiquité, c'est l'oignon. C'est aussi comment ça s'appelle? Les lentilles, il y avait beaucoup de lentilles.
Hein. Tous les légumineuses, ouais. Il y en a beaucoup dans la
bien voilà. Sûr, ouais.
Légumes, légumineuses.
Voilà, le blé apparaît aussi, l'épeautre. Alors du côté de la viande, il y a les viandes d'élevage. Beaucoup de gibier, autant qu'on sache, des volailles.
Du canard.
Par contre, du porc, beaucoup de porc également. Et ce qu'on sait, c'est que c'est le mouton, la viande de mouton qui était tabou.
Oui.
Et ça, c'est étonnant.
Et on sait pourquoi? On sait pas pourquoi, si?
Si, on a des pistes. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est quelque chose qui a été compris il n'y a pas si longtemps. Et c'est assez intéressant.
Voilà. Alors, du coup, attendez, c'est la fin, mais si ça a été compris, racontez-moi pourquoi. Dites-moi qu'est-ce qu'on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris réellement de ce mouton?
On a compris qu'on mangeait pas la viande de mouton. Par exemple, on le voit dans les...
Ah oui, on n'a pas compris pourquoi, mais on a compris qu'on ne mangeait pas la viande de mouton. D'accord.
On le sait en partie pourquoi, mais on a compris qu'on ne le mangeait pas.
D'accord, ok. Alors, ce qui est intéressant dans la tombe, c'est effectivement ce qu'on a... tout ce qui l'accompagnait, les viandes préparées, et puis les légumes, légumineuses, gâteaux, toutes sortes de pains. Et puis, ces jarres qui sont une indication très précieuse avec du vin. Et notamment, on sait qu'il aimait le vin doux, Toutankhamon, et pas vraiment la bière qui a été créée par les Égyptiens.
Et on sait s'il était bon ce vin ou pas?
Ah, on l'a pas goûté.
Ah ben voilà. Allez, merci beaucoup, merci vraiment, merci à tous. Je rappelle Vincent Rondeau, mais avec d'autres collègues, avec Dominique Farou, qui est conseiller scientifique et égyptologue, avec Guillemette Andreu aussi. Vous serez à la tête au carré chez Mathieu Vidard pour une émission spéciale Toutankhamon, parce qu'on est très Toutankhamon, nous, sur France Inter. Merci beaucoup et portez-vous bien.